dernière grande question, et vous avez le temps de réfléchir un peu plus, c'est de réfléchir sur les grandes réussites et les échecs de la Convention, quand vous prenez un vue large.
Ben, les grandes réussites, c'est déjà, elle existe en soi, c'est une grande réussite. Non, je trouve que c'est une immense réussite d'avoir d'être parvenu à identifier, à décliner par des critères très pointus, délicats et assez nombreux, puisqu'il y en a 10, la notion de valeur universelle exceptionnelle et d'arriver à l'appliquer à des biens identifiés dans chaque pays. C'est un formidable montage, cette convention, dans sa mise en œuvre, dans ses principes, dans ses directives opérationnelles et dans sa mise en œuvre. Ça, je trouve que c'est un grand succès, et un succès qui est manifeste, puisque 186 États partis, puisque 890 biens inscrits. Donc ça, manifestement, c'est un succès. Alors, maintenant, dire que ça a toujours été fait, il y a une notion de subjectivité dans cette valeur universelle exceptionnelle. Il y a forcément une notion politique aussi. Chaque État souhaite avoir son ou ses biens au patrimoine mondial. Il est difficile de dire que tous les biens sont égaux en termes de valeur universelle exceptionnelle. Mais là, on rentre dans du subjectif et je pense qu'il faut laisser un peu cette marge, parce que sinon on serait dans de l'arithmétique pure, dans quelque chose d'une logique implacable, et ça ne correspond pas à l'humain et le patrimoine et le résultat d'une création humaine. Donc il faut garder cette marge. Les échecs, je ne parlerai peut-être pas d'échecs, mais disons que je crois que la radiation de deux biens de la liste du patrimoine mondial est un échec.
De quoi?
Le fait que deux biens inscrits au patrimoine mondial aient été rayés de la liste, pour moi, c'est un échec. C'est un échec parce que cela veut dire que les porteurs de ces dossiers, eh bien, ont renoncé à cette valeur universelle exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Alors, il y a d'autres impératifs qui ont primé. Et ça, c'est dommage parce que lorsqu'on est parti à un traité international, eh bien, on sait bien qu'on abdique une petite part de sa souveraineté, que le droit national est évidemment inférieur en rang au droit international et qu'on abdique une partie de sa souveraineté. Donc ça, je dirais que c'est un peu dommage. Et puis, dommage, cet engorgement, ce fait qu'on n'arrive plus à l'état de conservation des biens. Il y a des biens qui sont dans un état de conservation très préoccupant. Alors, on ne va pas, et je le comprends, et je trouve que ce serait un très mauvais message, radier certains biens de pays en développement dont on connaît les problèmes année après année parce qu'ils sont sur la liste en péril et dont on voit bien que la valeur universelle exceptionnelle n'existe plus. Mais ce serait un tel désaveu pour des pays qui sont déjà dans une situation difficile que je crois que le comité ne peut pas se permettre de rayer ces biens de la liste. Mais là, il y a aussi un échec à faire prévaloir les valeurs du patrimoine mondial. Mais bon, il y a des situations de conflit, il y a des situations difficiles. Ça, c'est la marche du monde qui impose certaines contraintes. Je ne dirais pas que l'échec est apporté au débit de la Convention. La Convention n'y est pour rien, mais c'est donné à voir, disons.
Et juste la dernière. Vous me faites penser à ça. Est-ce qu'on utilise bien la liste en péril? Parce que c'est lié à la question de... Vous avez mentionné qu'il y a des sites qui sont là pendant des années.
Ben, la liste en péril, elle est là, elle est utilisée de manière un peu mécanique, c'est-à-dire toujours pressée par l'urgence. On regarde année après année l'état de conservation du bien inscrit sur la liste en péril. Si les choses n'ont pas évolué, on maintient, on fait des recommandations à l'État. Si les choses ont évolué, au bout d'un certain temps, on réintègre sur la liste et c'est une grande victoire. Mais bon, il faut se réjouir naturellement. Mais je crois qu'il faut aussi regarder ceux qui sont sur la liste en péril depuis très longtemps et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais on ne peut pas toujours faire en raison justement de circonstances de post-conflit ou de circonstances de conflits endémiques dans certains pays. Le braconnage, par exemple, dans les grands parcs africains est une... est une situation incontrôlable. Le fait que les gardes de ces grands parcs soient menacés de mort, je crois que certains même ont été tués, enfin victimes. Donc ça, c'est des situations que peut faire le comité intergouvernemental, à part émettre le vœu que, regretter que, etc. Alors, comment mieux utiliser la liste en péril? Je crois que ça ne peut se faire qu'en coopération étroite avec les États parties et, en lien direct avec l'assistance internationale.
Mais c'est de trouver une porte de sortie pour ne pas être dans un genre de cycle vicieux.
Oui, oui. Et je pense que certains biens y sont, oui. Malheureusement. Il faudrait trouver cette porte de sortie, effectivement, mais...